Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour glorifier Dieu et nous allons le faire justement à travers sa parole. Alors, je suis resté absent 2 semaines et ces 2 semaines, je réfléchis à beaucoup de choses. Et le Seigneur, il a mis dans mon cœur deux versets que je vais vous lire. Et c'est de là que j'ai retiré l'enseignement pour chacun de nous. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, lorsque je prépare quelque chose, je prépare la prédication pour moi-même. Donc, comme à moi, ça m'a fait du bien, je vous l'apporte pour que vous aussi, vous soyez bénis. Hein? Mais encore une fois, c'est pour moi d'abord que je fais. Hein? Alors, ces 2 versets, il se trouve, le premier, il se trouve dans le psaume 12, verset 2. Il dit: les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Le deuxième, il est dans Proverbe, chapitre 20, et le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Encore une fois, c'est pour moi. Je me suis dit, est-ce que tu es fidèle? C'est ça, là, ce qui compte le plus. Et ça, c'est une question que chacun de nous il doit se poser. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde dans lequel c'est difficile de rester fidèle. Je parle fidèle à Dieu, hein, et pas à autre chose, hein. Et vous savez, dans nos églises, qu'est-ce que c'est qu'on demande dans nos églises? Paul, il est clair, hein? Et il nous le dit en Corinthiens 4. Ce qu'on demande à des fidèles, à des membres de l'église, c'est qu'ils soient fidèles. Donc, voilà la prédication de ce matin. Le titre, c'est « Dieu... il cherche des hommes et des femmes fidèles. » Voilà le titre de ma prédication. D'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est être fidèle? Pour connaître qu'est-ce que ça signifie, il faut regarder dans le dictionnaire français. Hein, et regarder, pas le mot fidèle, mais la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Voilà la définition qu'il donne. La fidélité, c'est le respect de la parole donnée. Être fidèle à la parole qu'on a donnée. Qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements. Qui ne varie pas, donc qu'il est fidèle, qui ne change pas. C'est aussi conformité à la vérité. Ce que Dieu nous dit... Nous savons que la parole est la vérité, donc nous devons être conformes. Et pas se dire, oui, Dieu me dit ça, mais... Non, ça, c'est pas la bonne question, ça. La bonne réponse, pardon. Et aussi, c'est l'exactitude. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, nous devons le faire. Nous devons le faire. Et alors... ce matin, je vous invite à regarder, on a des enseignements de quel type d'homme Dieu il cherche, c'est-à-dire les caractéristiques d'un homme fidèle, et nous allons regarder surtout le livre de Daniel, le chapitre 6. Hein, et... pourquoi? Parce que ce livre, ce chapitre nous montre vraiment comment on peut être fidèle dans un monde dans lequel Dieu, il est exclu. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais dans le monde dans lequel on vit, Dieu, il est complètement de côté. Voilà pourquoi Dieu, il dit, je cherche des hommes et des femmes fidèles. Hein, dans Ézéchiel aussi, il nous le dit, le Seigneur. Il le dit à Ézéchiel, il a dit, « Fils d'homme, je cherche un homme qui l'élève à mur. Je t'établis comme sentinelle pour que tu annonces les choses qui arrivent. » Une sentinelle, vous savez bien qu'il doit annoncer les dangers. Et nous devons le faire, cela. En annonçant ces choses, nous sommes fidèles à ce que Dieu nous dit. Donc, chapitre 6 de Daniel, d'abord, le contexte, c'est Daniel qui a été déporté, vous savez bien, le peuple juif, hein, il a été déporté par Nabuchodonosor à Babylone. C'est déjà passé pas mal d'années. Et ici, Daniel, il a presque 80 ans. Hein. Donc, 60 ans, ils sont déjà passés depuis qu'il a été amené en Babylone. Et qu'est-ce qu'il a fait durant ces 60 ans? Il a servi les rois babyloniens. Mais toujours, il les a servis selon la croyance qu'il avait, la religion. Vous en souvenez, au commencement, il avait choisi les jeunes, les plus intelligents, les plus beaux, et les avait mis au service du roi. Et alors, il les avait mis dans un endroit, et il leur a dit de leur donner les choses meilleures du pays. Mais là, Daniel, avec trois amis, il a dit, écoute, nous ne mangeons pas les choses que vous mangez. Hein? Mais n'ayez aucune crainte pour nous, continuez, laissez-nous manger ce que notre religion nous dit, et ensuite vous allez juger si ou non nous portons bien. Et ils les ont laissés faire, et ils ont mangé les choses qu'ils disaient leur religion. Pourquoi ils ont fait ça? Pour rester fidèles à Dieu, pour ne pas manger des plats ou des choses qu'ils étaient impures selon la religion juive. Et donc, ils se sont refusés et à la fin, ils se portaient mieux que les autres. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Donc, ils ont continué à servir. Et Daniel, pendant tout ce temps, ils ont fait trois choses que chacun de nous devons faire. Hein, que nous devons faire pour être fidèles à Dieu. Daniel, il faisait une chose. Premièrement, il dénonçait le mal qu'il y avait autour de lui. Si vous avez lu un peu Daniel, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Hein. Il dénonçait le mal, mais pas il a dénoncé seulement, mais il donnait des avertissements. Car c'est ça. Il faut avertir, il faut dénoncer, mais aussi avertir, c'est-à-dire les résultats, si on ne se comporte pas comme Dieu il nous le dit. Et ensuite, il rendait témoignage. Chose très importante, là aussi. Voilà un peu le contexte de cette vie. Hein. Et on peut rentrer dans le sujet, on va lire chapitre 6, le verset 1 à 4. On va faire presque tous les chapitres, hein, mais petit à petit, pour voir, parce que la première chose qu'on voit, c'est les caractéristiques d'un homme fidèle. Quelles sont les caractéristiques d'un homme fidèle? Et Daniel, il nous les montre. Pour que nous puissions les lire, pas les lire seulement, mais il faut les mettre en pratique. Le Seigneur Jésus nous a bien prévenus. Hein. Ce n'est pas ceux qui connaissent, qui sont mes disciples, mais c'est ceux qui le mettent en pratique. C'est ceux qui le mettent en pratique. Lisons ces quatre versets. Daniel, chapitre 6, verset 1. Darius, c'est le roi qui l'a succédé à Nabuchodonosor et à son fils Belsazar. Hein. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrissent d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Ici, on voit que Darius, il a besoin de gens pour qu'ils soient à son service. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des gens. Mais à la tête de ces gens, il met Daniel. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Daniel. Parce qu'il savait que Daniel, c'était quelqu'un de fidèle. Qu'il a toujours travaillé pour que le royaume babylonien puisse avancer. Et qu'il disait les choses qu'il fallait dire, sans regarder l'apparence de la personne. Vous savez, Daniel, il ne regardait pas s'il parlait au roi ou autre chose. Il lui répondait avec respect, bien sûr, parce que c'est le roi. Mais il disait les choses qu'il fallait. Et alors, Darius, il a mis Daniel à la tête de toutes ces choses-là. Et vous savez bien, ces satrapes, que c'était les dirigeants, les gouverneurs qu'il avait. Ces gens-là, automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, la jalousie. La jalousie, hein? Et Daniel, lorsqu'il a été élu, il a agi toujours avec la même probité, hein? Toujours en exerçant son travail pour le bien-être du roi et aussi pour le bien-être de tous ceux qui étaient là. Et donc, on voit ici que la fidélité, la première caractéristique de quelqu'un de fidèle, c'est de faire les travaux qu'on lui donne à faire. De mettre en pratique tout ce que lui a dit de faire. C'est ça la fidélité. C'est lorsque quelqu'un, il s'est dit, oh, c'est ce qu'il m'a dit Jean-Pierre, ça me plaît pas, je vais le changer. C'est pas être fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, il exécute promptement tout ce que son maître lui a dit. Et c'est à ça que c'est la première caractéristique de quelqu'un de fidèle. Bien sûr, il ne faut pas que le chef nous dise des choses qui ne sont pas bonnes, quoi. Hein? Mais Daniel, il a exercé toutes ces choses-là comme il faut. Daniel, il était fidèle vis-à-vis du roi, mais surtout, il était fidèle vis-à-vis de Dieu. C'est ça, être un homme fidèle. Faire les choses que Dieu lui a commandé de faire et mettre en pratique ces choses par rapport au roi qu'il a établi à cette... Un peu comme Joseph. Vous vous en souvenez, Joseph? Joseph, il a fait cela avec le rêve. Et pourtant, il a dit des choses qui n'étaient pas. Mais il est là pour avertir. Il est là pour dénoncer et il est là pour rendre témoignage. Et c'est ce qu'il a fait, Daniel. Et vous savez, dans notre propre vie chrétienne, c'est l'enseignement, aucun témoignage, hein, pas aucun, mais tout témoignage a beaucoup plus d'importance que 1000 sermons. Il ne faut pas avoir seulement des mots, mais il faut les actes. Parce que si on met les mots devant et on ne les met pas en pratique, il y a problème. Voilà pourquoi Daniel, il était un homme fidèle en toutes ces choses-là. Pourquoi Daniel, il agissait avec fidélité? Parce qu'il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, par qui sommes-nous dirigés? C'est par les pasteurs? Oh non! C'est par l'Esprit de Dieu. Parce que si nous sommes chrétiens, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. C'est pas que les pasteurs ou les conseils, il y a beaucoup d'esprit que vous. Hein. Ils ont le même esprit. Mais chacun de nous, il doit agir par rapport au bien-être de l'Église de Dieu. Et pas mon bien-être. Parce que c'est pas pour ça que l'esprit il est là. Et Daniel, il faisait toutes ces choses-là. Et il avait une vie intègre. Et ces satrapes-là, ils ont essayé de chercher des choses qui n'allaient pas dans la vie de Daniel. Ils ont cherché Mais on va le voir plus tard, c'est marqué, ils n'ont trouvé rien à redire sur sa vie personnelle. Première qualité, c'est écouter ce que Dieu il dit, écouter ce que l'Esprit nous dit et le mettre en pratique. Le mettre en pratique à travers un témoignage. C'est ça qui est le plus important. Ça, c'est la première de toute caractéristique de quelqu'un qui est fidèle. Mais continuons à lire le verset 5. Le verset 5 jusqu'au verset 12. Il dit, voilà, c'est les satrapes qu'ils ont cherché, hein. Prenons le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Pourquoi ? Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et ça, c'est quelque chose que c'est très important pour chacun de nous aussi. Hein? Il dit, mais il n'est pu retrouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Est-ce que Daniel, il n'avait pas de péché? Mais oui, il avait des péchés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour le peuple d'Israël. Lorsque Balak, il avait appelé Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Il lui a donné de l'argent. Alors, il a demandé à Dieu, il a dit, dois-je y aller? Dieu et l'Éternel lui a dit, non, n'y va pas. Il a été chez les rois et il lui a dit, non, Dieu il m'a dit de ne pas aller. Mais je vais aller encore lui parler. Peut-être que. Il y a été, Dieu lui a dit la même chose. Et la troisième fois, Dieu lui a dit, tu veux aller, vas-y. Mais tu diras les choses que je te dirai. Il est monté sur une montagne et il a regardé les tentes d'Israël parce qu'il était campé dans un endroit. Et alors, il était là pour maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu, il est là. Et alors, en regardant les tentes, il a dit, « Que sont belles tes tentes, ô Israël. Je ne vois en toi aucun mal. » Je serai toujours auprès de toi. Est-ce qu'Israël n'avait pas de péché? Non, mais les yeux de Dieu, ils étaient pointés vers celui qui les aurait sauvés, vers Jésus-Christ. Il y avait les péchés. Voilà pourquoi il dit, on ne trouve rien en Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Mais ils ont continué à chercher dans sa propre religion, dans sa propre croyance, pour qu'ils puissent le reprendre. Et on continue à lire, verset 5. « Nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs de ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, « Au roi, confirme la défense et écrit ce décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là, il a dit « Il faut chercher dans sa propre religion. » Et alors ils ont dit « Au roi, il a dit, personne ne doit prier quiconque ou qui que ce soit que toi. » Pourquoi ? Parce qu'il savait que dans la loi juive, on ne devait prier que Dieu. Et donc il a dit que tous ceux qui prient quelqu'un d'autre, ils soient à la mort. Et c'est là que Daniel, il a toujours été fidèle. On voit que la fidélité de Dieu, que Daniel, il avait, il a gardé ferme cela. Mais en plus, ils se sont tournés vers les rois, et les rois, il a accepté. Mais les satrapes, ils lui ont dit, confirme cette parole par la loi des Mèdes et des Perses. Pourquoi la loi des Mèdes et des Perses? Parce que cette loi-là, lorsque le roi il utilisait cela, il ne pouvait pas changer. C'est-à-dire, il pouvait dire quelque chose d'une interdiction, et alors le roi il dit, bon, oh, je me suis trompé, je l'enlève. Il ne pouvait plus l'enlever. Donc il a sorti cette loi que personne il pouvait prier, mais quel roi, quel empereur Darius. Et il l'a fait. Verset 9. Le dessein du roi Darius, et là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Voilà, selon la loi des Mèdes et des Perses. Personne il pouvait prier autre, quelqu'un d'autre que le roi. Et il dit, et il promulga la défense. Interdiction. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres et la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait ce Dieu. Alors, une autre caractéristique d'un homme fidèle, hein, c'est que cet homme-là, Daniel, lorsqu'il y a des difficultés, il avait 80 ans, hein, il s'est mis à genoux. Et malgré toute cette interdiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à faire les choses comme il faisait d'habitude. Ça, c'est un homme fidèle. On a vu la définition de la fidélité, c'est ça. Hein? Continuer à faire ce qu'on faisait avant. Exactement, être conforme à la vérité. Et Daniel, il a continué. Mais les complots, il y avait un complot derrière lui. Parce qu'il y avait, c'était marqué que celui qui priait quelqu'un d'autre, il était voué à la mort. Et pourtant, Daniel, il a continué à faire ces choses-là. Et c'est ça, la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel, il savait que c'est mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Malgré qu'il y avait cette défense des morts, il est retourné chez lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prier. Et il a même ouvert la porte, pas la porte, les fenêtres. Sûrement que ces fenêtres-là, ils donnaient sur la rue. Et encore autre chose, c'est qu'à cette époque-là, lorsqu'on priait, on priait à haute voix. Donc les gens, ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu. Et c'est alors que ce monde corrompu, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils sont tout de suite allés voir le roi. Et il leur dit, voilà, ton Daniel que tu as établi, il n'obéit pas à tes ordres. Mais Daniel, de toutes ces choses-là, hein, il ne regardait pas ces choses-là. Pourquoi? Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est pareil. Pourquoi les gens ils n'ont pas aimé le Seigneur Jésus quand il était ici-bas sur cette terre? Parce qu'ils montraient que leurs œuvres étaient mauvaises. Et vous savez bien que lorsque vous dites à quelqu'un, mais ce que tu fais, c'est pas beau, c'est pas bien. Et alors, l'autre, il fera tout pour t'accabler encore plus. Hein. Mais c'est pour ça que Jésus, il a été, qui n'a pas été aimé. Et il a dit lui-même, parce que je suis là pour vous dire que vos œuvres ils ne sont pas agréables devant Dieu. Il faut changer. Et c'est ça que aujourd'hui dans ce monde, pourquoi est-ce que nous sommes délaissés? Pourquoi est-ce que nous sommes mal vus? dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas comme eux et nous ne faisons pas les choses que eux ils font. D'ailleurs, si vous lisez Pierre, c'est marqué, il nous dit, Pierre, ne vous étonnez pas que les gens du dehors ne vous aiment pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux. Avant notre conversion, vous fréquentez qui? Ben, les gens qui n'avaient pas le Seigneur dans son cœur. Et qu'est-ce qu'on faisait? On sortait, on faisait la java, on faisait tout qui n'est pas agréable à Dieu. Mais une fois qu'on a accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ce changement dans notre propre vie. Et nous avons délaissé toutes ces choses-là. Et ça, les gens, ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Quelqu'un qui ne vit pas selon le monde, il ne l'aime pas. Jean, il a été clair dans ses épîtres. Celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Celui qui vit comme le monde, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Daniel, il dit, bon, le roi, il m'a ordonné, mais moi, je fais les choses qu'il faut pour Dieu, pas pour les rois. Et c'est ça que, mais encore une fois, comme ce roi, il avait signé selon la loi des Mèdes et des Perses, il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais Daniel, il est resté fidèle à ces choses-là. Il n'y a pas que Daniel qui est fidèle à ces choses-là. Il y a eu l'apôtre Paul aussi, que devant le roi à César, le gouverneur de Césarée, à Actes 24:16, il a dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce qu'il faisait, Daniel. Le roi, ensuite, on va le voir, il était attristé. Pourquoi? Parce que Daniel, il ne faisait rien de mal contre lui. Daniel, il s'est toujours conformé à ce que Dieu il lui disait. Paul, il a fait pareil. Et en plus, c'est même le Seigneur Jésus. Il a fait exactement la même chose. Et il dit, car c'est par envie que les chefs juifs avaient livré Jésus. Ils étaient jaloux. Et les satrapes, les gouverneurs et compagnie, c'était de la jalousie envers Daniel. Mais Daniel, il est resté ferme. Et vous savez, c'est un grand enseignement pour chacun de nous, Si dans notre propre vie, si la jalousie, l'intrigue, l'envie, l'accusation, la calomnie nous frappent, prenons courage. Prenons courage. Notre fidélité est plus grande devant Dieu si nous lui restons fidèles. Malgré qu'il y ait des choses tout autour de notre vie, les gens ils nous envient, ils sont des jaloux, ils nous calomnient, ils nous portent atteinte, un peu comme l'a dit Hugues ce matin, et dans le pardon. Ne faites pas attention. Ne faisons pas attention. Pourquoi? Parce que être bien aux yeux de Dieu, c'est mieux qu'être bien aux yeux du gouvernement. Et c'est ça. Pierre, il a dit, ne prêchez, le souverain sacrificateur a dit, ne prêchez plus dans le nom de Jésus. Et Pierre, il a dit, mais juge toi-même. Qu'est-ce que c'est qui est mieux? Obéir à toi ou obéir à Dieu? C'est ça, Daniel, il avait cette... qui ne regardait pas aux choses qui tournent autour de lui dans ce monde, mais qu'il avait un seul regard, c'est Jésus. C'est Dieu. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit quoi? Ayez le regard fixé sur Jésus. Et lorsqu'on ne regarde pas Jésus, on tombe. Lorsqu'on regarde ce que les gens ils nous font autour de nous, on tombe. On a un exemple avec Pierre. Vous vous en souvenez? Lorsqu'il était dans la barque, à un certain moment, Jésus, il arrive, parce qu'il y avait une tempête. Pierre, il l'a vu. Et il croyait pas. Alors il dit, fais que je puisse aller vers toi. Et Jésus, il a dit, viens. Mais Jésus, au lieu de laisser son regard vers Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé autour de lui. Et automatiquement, lorsqu'on regarde autour de nous, tout ce que les choses, les gens, ils peuvent nous faire, hein, nous ne sommes plus en sûreté. Ayez les yeux pointés sur Jésus-Christ. Si on nous fait du mal, regardons Jésus. Ne regardons pas. Jésus, il a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Mais ayez surtout peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. Perdre son âme pour venir à être en bon terme avec les gens qui nous entourent, ce n'est pas convenable. C'est ce qui nous intéresse, c'est être bien auprès de Dieu. Dans Apocalypse, peut-être qu'on va le faire, hein, mais vu le temps qu'on a, hein, Apocalypse c'est long, hein, il y avait Polycarpe. C'était celui qui a remplacé Jean à Éphèse. Et alors il voulait le faire abjurer le nom de Jésus. Alors il a répondu, il a dit, si tu n'abjures pas, on va te tuer. Et il a dit, ça fait 80 ans que je suis auprès de Jésus et je n'ai reçu que des bénédictions. Alors, sachez que je vais continuer. Vous allez faire ce que vous voulez sur mon corps, mais je vais rester fidèle à Jésus. Et c'est ça, un homme fidèle, il regarde vers Dieu. Il ne regarde pas à ce qu'il lui arrive autour. Encore une fois, soyons confiants que même si nous nous trouvons dans des situations très difficiles, hein, qui peuvent nous décourager et qui nous découragent sur le moment, mais si nous avons les yeux pointés sur Jésus, alors là, nous serons tout de suite restaurés. Et Daniel, c'était quelqu'un comme ça. Regardons un peu les secrets. Quel était le secret et quel est le secret d'un homme fidèle? En regardant Daniel, bien sûr. Hein, parce qu'on est dans le chapitre 6, hein, de Daniel. Alors, le secret d'un homme fidèle. On va voir dans Daniel toujours, mais regardez au verset 3. Il dit, afin que Satrape le rendisse compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Qu'est-ce que c'est que le secret de Daniel qu'il pouvait être fidèle? C'est quoi? On vient de le lire. On a du mal ici à Argenteuil, tout de suite, hein? Ou pour prier, ou pour répondre dans les études. C'est l'étude biblique, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. C'est pour apprendre. Lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il faut lever la main et dire j'ai pas compris. Mais on se tait, on dit rien. Qu'est-ce que c'est alors le secret de Daniel? Pourquoi il était-il fidèle? Et il avait un esprit supérieur. Et qui dit un esprit supérieur, c'est qu'un esprit que les autres n'avaient pas. Et ce n'est pas la première fois dans le livre de Daniel qu'il est dit ça. Par exemple, dans Daniel 4, 18, il dit, le roi, il avait dit, en toi, hein, il y a l'esprit du Dieu vivant. Ça, c'est le roi qui le dit. Et aussi dans Daniel 5, 12, il dit encore une fois, il y a un esprit supérieur. Le secret de nous chrétiens, c'est parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Il n'y a pas d'autre secret. Ce n'est pas parce que moi je suis fort ou j'ai de la connaissance ou je ne sais pas quoi. Si j'ai fait les choses selon la volonté de Dieu, si je suis fidèle, c'est parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Car rien vient de moi. Tout vient de Dieu. Mais tout, exactement tout. Hein? Hein? Et Jésus même, il a dit ça. À propos de ceux qui l'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Il le dit dans Jean 14. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Donc, il y a une différente façon de raisonner. Nous, nous raisonnons selon l'esprit, mais eux, ils n'ont pas cet esprit. C'est pareil pour la compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne comprennent pas? Parce que les choses qui sont dans la parole de Dieu, on peut les comprendre qu'à travers l'esprit que nous avons mis. Car c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il nous le révèle. C'est ça le secret pour être fidèle. Vous me direz, mais je suis chrétien, j'ai l'Esprit de Dieu. Oui, tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. Et pourquoi tu n'es pas fidèle? Parce qu'on a les oreilles bouchées. C'est tout. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il le répète très souvent, hein, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Mais c'est que des fois l'Esprit nous parle et nous disons, non, je ne vais pas le faire. Tu as tort, je vais faire selon moi. C'est pour ça que nous ne sommes pas fidèles. Mais sinon, nous avons toutes les possibilités d'être fidèles. Mais il faut écouter l'Esprit, parce que nous ne savons pas nous comporter. Nous avons encore en nous cette nature humaine, comme le disait Oscar tout à l'heure à l'étude. Hein. Notre nature mauvaise, elle est toujours en nous. Hein. Vous savez, dans notre vie, on a deux oreilles. Hein. À gauche, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. À droite, hein, ou le contraire, hein, c'est l'esprit du malin. L'Esprit nous dit, fais ceci. De l'autre, il a dit, mais non, ne le fais pas. Alors c'est à nous de choisir, parce que Dieu ne nous oblige pas, Dieu il n'oblige personne. C'est par amour que nous devons le faire, comme lui l'a fait en envoyant Jésus-Christ. Est-ce qu'il avait besoin de nous, Dieu? Mais non, aucunement. Mais il l'a fait parce qu'il aime l'humanité et il a voulu le sauver. Voilà pourquoi il est dit, tu m'as aimé les premiers. Tu m'as cherché et je suis venu. Il faut la main de Dieu. D'ailleurs, qui de vous est venu sans que Dieu le cherche? Personne. Si nous sommes venus à la croix, c'est parce que Dieu est venu me chercher. Il y a tellement de gens qui sont venus me chercher, de toutes les religions sont venus me chercher, pour que je puisse rentrer dans leur religion. Un peu comme Abraham, vous savez, Abraham, il était idolâtre. Il avait des idoles dans sa maison, donc il avait plusieurs dieux. Mais un jour, un de ces dieux, il lui a parlé. S'il m'a parlé, il disait, c'est qu'il existe vraiment. Un peu comme disait Élie lorsqu'il était sur le mont Carmel. Vous vous en souvenez? Ils avaient construit, hein, il y avait les Baals, hein, les prophètes. Et il dit, écoutez, voilà, on a construit cet hôtel-là, on a mis de l'eau, on a mis du bois. Alors, vous, les prophètes des Baals, de ces dieux, priez votre Dieu pour qu'il envoie le feu. Voilà. Et ensuite, moi, je vais prier mon Dieu qu'il envoie le feu. Qui est plus fort? Peut-être qu'il est sur son trône. Mais là, c'est un jeu de mots, hein. C'est un jeu de mots, hein. Vous savez, les trônes, les toilettes, on l'appelle le trône. Hein. C'est un jeu de mots. Peut-être qu'il est sur le trône, il ne vous écoute pas. C'est ça, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a lui qui répond. Lorsque David, Élie, c'était son tour. Il a dit, mettez encore plus d'eau. Pas seulement un seau, mais mettez-en plusieurs. Il a prié et le feu est descendu. C'est ça que nous devons avoir. Et tout ça, c'est nous pouvons être fidèles parce qu'on a l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est lui qui nous dirige en toutes choses. Tout enfant de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il dit, il se proclame du côté de Jésus-Christ, qu'il accepte en tant que Seigneur et Sauveur, il reçoit l'Esprit de Dieu. N'attendons pas l'Esprit de Dieu par la suite. Il vient automatiquement. Et nous avons le même esprit que Paul ou Pierre ou les apôtres, ils avaient. C'est le même. Sauf qu'eux, ils avaient les oreilles ouvertes. Ils se laissaient conduire. Mais nous, nous avons les oreilles bouchées. C'est tout. Mais sinon, on a le même esprit. Alors, pourquoi nous ne sommes pas fidèles? Car nous avons cette possibilité de l'être. Donc, Daniel, il était fidèle parce qu'il avait un autre esprit que ceux des autres. Mais un deuxième secret de cette fidélité de Daniel, au verset 2, chapitre 9, verset 2, regardez ce qu'il dit. Lisons même le premier. Hein. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Un autre secret de l'homme fidèle, ici il nous le dit clairement, c'était un homme qu'il étudiait les Écritures. C'était un homme qu'il étudiait la parole de Dieu. Ça faisait déjà 70 ans qu'il était là. Et alors il voulait savoir qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'on va rester complètement éloigné de notre terre, de cette terre que tu nous as donnée. Alors il a regardé dans les Écritures et il a découvert dans le livre de Jérémie que cette déportation, il aurait duré 70 ans. Donc leur délivrance, il était tout prêt. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, de nous porter à étudier sa parole. Le secret de Daniel, c'est parce que il étudiait la parole. Et nous, c'est pareil, nous devons le faire. Pas lire la Bible juste un chapitre par jour et après, bon, j'ai fait mon devoir. Non, il faut la lire, il faut la méditer. Et se demander, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, à travers ça? Comment est-ce que je dois me comporter? Et pas simplement lire, mais il faut la lire, la méditer. Et surtout, comme Jésus nous l'a dit, tant de fois, mettons-la en pratique. Même si la chose ne nous plaît pas. Et il y en a des choses dans la Bible que ça ne nous plaît pas. Hein. Mais nous devons le faire. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, ne la lisez pas. Ça ne vous apportera rien. C'est ça. Et cette parole, elle est là pour nous. Si Dieu nous l'a donnée, si Dieu a parlé à travers des hommes, c'est parce que nous en avons besoin. Donc c'est à chacun de nous. Dieu, il a fixé le temps pour le peuple juif. Et si Daniel, il n'aurait pas eu dans son cœur cette envie et cette joie d'étudier les Écritures, il ne l'aurait jamais su. Hein. Mais en étudiant, il a su que cette déportation. Et nous, c'est pareil. Nous voulons savoir ce qu'il va nous attendre. Lisons la parole de Dieu. Vous voulez savoir comment il va être le paradis, comment il va être la vie avec le Seigneur. Étudions la parole. Car Dieu, il nous révèle tout. Il nous a dit que Dieu, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets aux serviteurs. C'est ça. Et il dit aussi, les prophètes, il dit, cherchez-moi. Cherchez-moi, ça veut dire quoi? Étudiez les Écritures. Cherchez-moi et je vous révélerai de grandes choses. Je vous révélerai de grandes choses. si vous ne lisez pas la Bible, comment, moi, comment j'aurais pu savoir qu'un jour, je serais semblable à Jésus-Christ? Vous rigolez toujours quand je vous dis ça. Je me regarde à la glace et je dis, tu es beau, Aldo. Parce que je ne me regarde pas là, mais je vois en moi Jésus-Christ. Et c'est exactement vis-à-vis des frères et sœurs. Hein. Lorsqu'on dit quelque chose contre Olivier, on dit quelque chose contre Jésus. Lorsqu'on critique l'Église, on critique Jésus. C'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Et ça, c'est un secret que Daniel, il avait. Et nous devons avoir ces choses-là. Hein? C'est un homme de l'Écriture. Encore un secret, hein, de cette fidélité de Daniel, c'est la conséquence du deuxième homme de l'Écriture. Pourquoi, une fois qu'il a découvert que cette déportation, il durerait 70 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré pour le peuple juif. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous devons prier, premièrement pour nos frères et sœurs, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. La prière, c'est quelque chose de très important. C'est la seule arme puissante que le Seigneur nous a donnée. Jacques nous l'a dit, hein? C'est la puissance de Dieu. Et il nous l'a donné. Pourquoi? C'est la prière qui nous met en relation avec Dieu. Quelqu'un, il a dit, le téléphone de Dieu, il n'est jamais occupé. Il est toujours libre. Et tout ça, c'est par la prière. Si nous voulons devenir fidèles, il faut donner la vraie place dans notre vie de chrétien. Et cette place, c'est la prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui va mourir. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la respiration de l'église. Si, vous savez bien que si on ne respire pas, qu'est-ce qui nous arrive? Mais on va mourir. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est un secret que nous devons garder vraiment plus profond de nous-mêmes. La prière. Un autre secret de Daniel, au verset 10, on l'a, hein? Au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, le décret du roi, hein, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Un autre secret, c'est quoi? C'est que Daniel, il était rempli d'espérance. Il se mettait à prier, quelle était sa direction? Jérusalem. Jérusalem. Mais il ne priait pas pour Jérusalem, la ville. Mais il priait de ceux qui arriveraient à Jérusalem, dans une époque plus loin, c'est-à-dire la venue du Messie, qu'il apporterait la délivrance, la victoire à tout le peuple de Dieu. C'est ça que, hein, vous savez, les musulmans, lorsqu'ils prient, ils se mettent à genoux devant la Mecque. Les juifs, ils se mettent à genoux et ils prient vers Jérusalem. Et ils se disent les uns et les autres, depuis 19 siècles, ils disent quoi? Ils disent l'an prochain à Jérusalem. Mais ici, Daniel, il ne priait pas pour être à Jérusalem, mais dans sa tête, il avait cette espérance qu'un jour, le Messie, il serait revenu et que le peuple de Dieu, il aurait reçu enfin la vraie délivrance. Et cette espérance, quelle est notre espérance à nous? Est-ce que c'est que Macron ait retiré la loi qu'il a mis là pour partir à la retraite à 60 ans ou autre chose? Non, notre espérance, c'est que Jésus, il va revenir nous prendre. Il faut toujours avoir cette vue de la venue de Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous sommes appelés, avoir cette espérance et à la vivre. Et cette espérance, il doit remplir nos prières. Priez pour ce jour, pour que le Seigneur il nous trouve prêts. Vendredi, j'étais en enterrement, j'étais invité par quelqu'un à porter le message, et il y avait des musulmans, et il y avait d'autres religions, et mon message, c'était d'Amos 4. Hein? Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Et j'ai prêché sur ça. À la fin, des musulmans, ils sont venus, il a dit, parce que je leur ai dit, il y a beaucoup de croyances diverses ici. Ils sont venus me voir, il m'a dit, écoutez, les prophètes, il a dit la même chose, qu'il faut se préparer pour le jugement. C'est ça que... Il faut que nos prières soient dirigées pour que nous soyons prêts. Et le Seigneur, il n'arrête pas de nous le dire. Car vous ne savez pas ni l'heure, ni l'heure, ni les jours, mais soyez prêts. C'est ça notre espérance, que lorsque le Seigneur vienne, qu'il nous trouve prêts. Qu'ensuite il va y avoir le tribunal de Christ. C'est ça le plus important. Il était rempli d'espérance. Et ça, c'est quelque chose que nous devons la vivre. Et pas seulement savoir que, mais il faut être prêt. Quand le Seigneur, il va venir. Car, je leur ai dit, la mort, c'est un rendez-vous que personne ne peut manquer. Hein. Des gens, ils disent, oh, il n'y a rien après la mort. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que quelqu'un, il est venu, il est revenu de là-bas, ou de là-haut, comme dire, une fois qu'il est mort, pour nous dire, ça n'existe rien, c'est rien. Personne n'est venu. Le seul qui est revenu, c'est Jésus-Christ. Et il nous a dit, je vais vous préparer une place. Donc ça veut dire qu'il y a cette espérance. Et sachez aussi qu'une fois que vous êtes mort, la vie ne s'arrête pas là. Hein. Il y a le jugement. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Il est réservé à tous de mourir une fois. Mais après, vient le jugement. Alors, sommes-nous prêts? C'est ça. Je vous l'ai dit, pour être prêt, il faut s'être jugé de notre vivant. Voilà, des fois je pose la question, combien de jugements il y a hein, vous ne répondez pas tous, hein, mais le premier jugement, c'est le jugement de nous-mêmes lorsque nous sommes vivants. Oui, Dieu, je me juge, je suis pécheur, je mérite les châtiments, ta colère. Je sais que je suis pécheur, mais je me tourne vers toi, car je sais que tu es plein de miséricorde et d'amour. Tu as envoyé Jésus-Christ, alors fais-moi grâce, fais-moi pardon, je me juge pécheur, viens, sauve-moi, j'accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est ça le jugement. Et il nous dit quoi Jésus par rapport à ça? Que celui qui se juge, il ne sera pas jugé. Et pourtant, c'est marqué, après la mort vient le jugement. Mais si nous avons Jésus-Christ, si nous nous sommes jugés, il n'y a pas de jugement pour nous. Parce que nous sommes déjà passés des ténèbres à la lumière. Voilà quelque chose de très important. Mais il y a aussi, je vais être un peu long parce que, je vous l'ai dit, ça me fait du bien, ça. J'espère qu'il vous fera du bien aussi. Hein. Hein? Ensuite, il y a l'épreuve d'un homme fidèle. Ben oui, il y a des épreuves. Hein. Surtout pour ceux qui sont fidèles. C'est ça. Surtout, tous les chrétiens fidèles, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés. Hein. Et dans Corinthiens, il nous a dit, ils sont éprouvés, mais, hein, en Corinthiens 10, il nous dit que Dieu, toutes les épreuves que nous avons, on ne va pas lire ces versets, toutes les épreuves que nous avons, c'est des épreuves que nous pouvons passer outre. Ils ne sont pas des épreuves qui peuvent nous mener à la mort. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu, il apporte ce dont nous avons besoin. Si on est fidèle, il y a des épreuves, mais le Seigneur est là. Hein? Et regardez ce que nous dit le chapitre 6, toujours, versets 14 à 16. Parce qu'ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans une fosse lion, hein, parce qu'il avait. Hein. Et il dit, les rois furent très affligés. Mais oui, ils ont mis Daniel parce qu'il a toujours été fidèle avec lui. Hein. Les rois, il fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais il ne pouvait rien faire parce qu'il avait cette loi. Hein? Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Ça, c'est le roi païen qui dit ça. Hein. C'est-à-dire qu'il l'a condamné, mais en lui-même, il espérait que. Et c'est ça, Dieu, il apporte toujours le soutien lorsqu'on est dans l'épreuve. Daniel, il se retrouve dans cette fosse lion. Et vous savez, les lions à cette époque-là, ils n'avaient pas à manger tous les jours. Hein. Normalement, quand on jetait quelqu'un, hein, tout de suite, hein, il s'est tombé dessus, hein, et il le mangeait, comme on dit. Hein. Mais, et voilà pourquoi ce roi, il dit, puisse ton Dieu. Et la nuit, il ne pouvait pas dormir. Il s'est levé de bonne heure. Il a été dans cette fosse. Alors, il a dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Et Daniel, il a dit, mon roi, oui, mon Dieu, il est venu à mon aide. Il a regardé et les lions, c'était un peu comme les chats quand ils sont autour de nous. Hein. Pourtant, les lions, hein, c'est rare, hein, surtout des lions affamés. Hein. Mais pourtant, ils étaient tout autour de Daniel et ils lui ont rien fait. Oui, Dieu, il intervient lorsqu'il y a des difficultés dans notre propre vie. Et vous savez, Daniel, il a été jeté dans un cageot. Hein, mais ça se fait que nous aussi, nous avons notre cageot. Hein? Où nous nous trouvons dans des difficultés, dans des peines, dans des souffrances, sachant que comme l'Éternel, il est intervenu pour Daniel, il interviendra aussi pour chacun de ses enfants. C'est ça. On se trouve dans le découragement, dans la peine, dans la tristesse. Sachez que Dieu est là. Si nous continuons à lui être fidèles et à regarder à lui comme constamment, alors il enlèvera ce découragement et il le remplacera par la joie de vivre, mais avec le Seigneur. C'est ça qu'il a fait. Il a été là, il a dit, est-ce que ton roi, il attendait un miracle, parce qu'il a dit, puisse ton Dieu t'épargner. Il va là, il n'arrivait pas à dormir. Il va là, il a dit, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Eh oui, le miracle, oui, il est là. Dieu, il est intervenu. Et Dieu, il va intervenir en toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il a fait, les rois, une fois qu'il a vu ça? Il a pris tous les satrapes, tous les gouverneurs qui ont accusé et il les a jetés dans la fosse aux lions. Et là, les lions, tout de suite, ils les ont bouffés. Eh oui. Pourquoi? Parce que avec Daniel, le roi, le Dieu, il est intervenu. Et c'est ça que le Seigneur nous demande pour être fidèles. Et la fidélité de Dieu, vous savez, en Daniel, et même en ses compagnons, vous en souvenez, ses trois compagnons, hein, que c'est Nabuchodonosor qui avait construit une statue. Et il a dit, vous devez tous vous prosterner devant cette statue, sinon je vais vous jeter dans cette fournaise. Les trois amis de Daniel. Il a dit, sache au roi, il a dit que nous ne nous prosternerons jamais devant toi, devant cette statue. Et si nous devons mourir, ben nous allons mourir. Mais nous sommes sûrs que le Seigneur, il va intervenir. Intervenir après la mort. Peut-être qu'ils attendaient qu'il le délivre, ça on ne le sait pas. Mais ils étaient sûrs que le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, il serait intervenu. Et alors, passé quelque temps, les rois, ils s'approchent parce qu'il avait une petite fenêtre. Et au lieu de trois personnes, il avait quatre personnes. Qui c'était ce quatrième? Mais C'est l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Il les a fait sortir et ses vêtements, ils avaient souvi, aucune brûlure. Ils ne sentaient même pas la fumée. C'est Dieu, lorsqu'il y a des peines, des souffrances dans la vie, dans notre propre vie, si nous sommes fidèles, oui, il y a des souffrances, bien sûr qu'il y a des souffrances. Hein, le Seigneur est clair. Hein. Il ne dit pas, soyez chrétiens et vous aurez une vie formidable. Non, il a dit, vous aurez des souffrances, car ils m'ont persécuté. Et ils vous persécuteront aussi. Il a dit, mais prenez courage. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça que nous devons faire. Hein? Et vous savez, il y a aussi les fruits de l'homme fidèle. Ça, on le voit dans 6:24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisèrent tous leurs os. Quelle est la récompense? Que tous ceux qui ont parlé contre Daniel, que tous ceux qui parlent contre ses enfants, ils subiront le châtiment de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut être confiant. Il faut continuer à être fidèle à Dieu, malgré qu'il y a des épreuves. Car Dieu, à un moment ou à un autre, il va intervenir. Voilà le beau témoignage de Daniel. Les résultats de ces épreuves de Daniel, il l'a établi encore plus haut. C'était le seul qui dirigeait ses pays. C'est lui qui régnait dans toute la Mède. Hein, et les choses, ils allaient. Voilà, ce message, encore une fois, je l'ai pris pour moi-même, et le souhait que je peux exprimer pour moi et pour vous, hein, que chacun de nous soyons décidés à être ces hommes et ces femmes que Dieu cherche, mais Dieu, sachant que Dieu, il ne cherche que des hommes fidèles. Alors, comme le disait quelqu'un, au bon entendeur, Amen.